Vous écoutez, on lit pour vous.
La descente énergétique ou la révolution qui vient. Une entrevue réalisée par Diane Bérard, parue le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet. Préservation de notre mode de vie. Densification intelligente. Fin de la croissance. Discussion avec le sociologue Éric Pinault sur les difficiles choix qui nous attendent. Le gouvernement Legault amorce une consultation sur l'avenir énergétique du Québec. De quoi parlerons-nous? Le mix énergétique québécois se compose de 50% d'énergie propre et de 50% d'énergie sale. La coalition Avenir Québec souhaite électrifier la seconde moitié afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans porter atteinte à la croissance économique. Or, si demain matin, on voulait remplacer tous les joules sales par des joules propres, il faudrait 14 centrales de la taille de la Romaine. C'est dire l'ampleur du défi. La transition énergétique signifie-t-elle maintenant le statu quo, c'est-à-dire éliminer les énergies fossiles et tout électrifier pour poursuivre notre trajectoire? Ou faut-il évaluer d'autres scénarios qui incluent de changer notre mode de vie et de repenser nos politiques de développement? Le ministre de l'Énergie du Québec est aussi ministre de l'Économie et de l'Innovation. Ce double mandat est-il susceptible d'influencer les choix énergétiques du Québec? La question est légitime. Quand la CAQ a annoncé le double mandat du ministre Fitzgibbon et le lancement d'une consultation publique sur l'énergie, la réaction de la population a été viscérale. Partout, des voix se sont élevées pour dire « Nous ne voulons pas d'un exercice contrôlé par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Nous réclamons un terrain neutre. Nous voulons un bureau d'audience publique sur l'environnement pour que tous les scénarios d'avenir soient envisagés. » Il faut comprendre que cette consultation publique n'est pas un choix du gouvernement Legault. C'est plutôt une tentative de circonscrire une conversation qui prend de plus en plus de place dans l'espace public. Le gouvernement réagit à la montée du débat de société autour de la transition énergétique. Un débat lancé il y a plusieurs années par le mouvement environnementaliste, mais qui rassemble aujourd'hui une coalition d'acteurs patronaux, municipaux, syndicaux et citoyens. Au cours des prochains mois, on verra bien comment les Québécois s'approprieront cette réflexion. Choisir notre avenir énergétique va bien au-delà de décider combien de barrages et d'éoliennes ajouter et où les installer, n'est-ce pas? Sommes-nous en train de choisir notre avenir tout court? Oui. Depuis que l'énergie moderne est entrée dans nos vies, nous suivons une trajectoire du « toujours plus ». Nous avons façonné notre économie, notre structure industrielle, notre territoire et notre vie intime autour d'une énergie abondante et infinie. Aujourd'hui, le Québec est en état d'ébriété énergétique, comme l'illustre mon collègue Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Nous vivons encore dans l'illusion des surplus. Ces 10 dernières années, la surface moyenne des unités d'habitation a augmenté de 20% au Québec. Or, un ménage vivant dans une maison unifamiliale consomme 44% plus d'énergie qu'un ménage vivant dans un appartement ou dans un condo. La consommation mondiale moyenne d'énergie est de 52 gigajoules par habitant. En Chine, c'est 65, en Suède, 160. Au Québec, elle atteint 183 gigajoules par habitant. Nous sommes un peuple qui gaspille l'énergie. Et notre économie repose sur des entreprises très énergivores, comme les alumineries et les aciéries. C'est de notre capacité à maintenir ce mode de vie qu'il est question. La croissance verte pourrait-elle nous éviter des renoncements douloureux et nous permettre de maintenir notre mode de vie? Non. La croissance verte est simplement une nouvelle incarnation du développement durable. C'est une fiction qui n'est jamais advenue ailleurs que dans l'esprit des économistes qui l'ont imaginée. Le développement durable repose sur deux idées interreliées. La première, c'est que les changements technologiques permettront de transformer notre mode de vie, notre mode de production et notre mode de consommation pour les rendre durables. La seconde, c'est que le développement durable ne peut survenir que s'il y a croissance, car c'est la croissance qui engendre les innovations technologiques. La croissance infinie serait donc nécessaire pour préserver l'environnement. Ces deux idées sont rassemblées dans la courbe environnementale de Kuznet, nommée d'après le même économiste russe qui a inventé le PIB et qui a reçu un prix Nobel en 1971. Cette courbe illustre la relation entre la croissance économique et la dégradation de l'environnement. Au début, la croissance produit peu de dommages. Puis, l'industrialisation pollue jusqu'à atteindre un seuil insoutenable où les gouvernements commencent à légiférer. Selon Kuznet, les lois et la richesse toujours plus grande générée par la croissance permettent alors de protéger l'environnement. C'est un raisonnement qui n'a jamais été prouvé. Pas plus que le concept de découplage. Ce que la révolution industrielle a uni, soit la hausse des gaz à effet de serre, GES, et celle de l'activité économique, rien ne peut le désunir. Bref, la croissance verte, qui nous incite à tout miser sur l'énergie renouvelable et sur la technologie, ne nous permettra pas de préserver notre mode de vie. À l'automne 2022, pendant qu'au Québec on a commencé à entendre parler de « sobriété énergétique », en Europe, des groupes comme le consortium MEDEAS étudiaient différents scénarios de descente énergétique. Quelle est la différence entre ces deux approches? J'aime utiliser l'analogie avec une application de navigation routière qui suggère différents itinéraires pour vous rendre du point A au point B. L'application vous propose des parcours en automobile, d'autres en transport collectif ou à pied. Évidemment, le temps d'un déplacement diffère selon le trajet choisi. Une stratégie de descente énergétique peut être plus ou moins rapide. Il n'existe pas un seul modèle, un seul chemin qu'une société peut emprunter pour réduire sa consommation d'énergie. C'est un choix collectif. La sobriété, c'est une qualité généralement individuelle qui influence nos comportements. Elle signifie qu'on se garde une petite gêne, qu'on se retient un peu. On règle notre boussole intérieure pour qu'elle nous guide vers des choix moins énergivores. Au Québec, plutôt que de nous inciter à investir dans de nouvelles infrastructures énergétiques, un scénario de descente énergétique pourrait établir que, d'ici 10 à 15 ans, notre économie et notre société seront adaptées pour que nous vivions avec la moitié de l'énergie que nous consommons actuellement. La moitié qui est renouvelable. Des chercheurs québécois et différentes parties prenantes se penchent actuellement sur ce genre de scénario pour le Québec. Et nous comptons les amener dans la discussion publique sur notre avenir énergétique. La descente énergétique repose sur deux mouvements complémentaires. L'efficience et la suffisance. L'efficience, en gros, c'est l'efficacité énergétique. En quoi consiste la suffisance? La suffisance se traduit par l'ensemble des changements profonds de notre mode de vie qui sont nécessaires pour réduire notre dépendance historique à l'énergie. Depuis qu'on a introduit la notion de croissance et le concept de consommateur dans les années 1930, on demande à l'économie de nous livrer des biens et des services qu'on se donnait jusque-là entre nous, ce qu'on produisait nous-mêmes, individuellement ou en commun, était forcément moins énergivore que ce que l'économie produit pour nous. La boîte repas Good Food, livrée à la maison, emballée et portionnée, est l'exemple ultime de la démultiplication de la consommation énergétique. Il y en a des joules dans cette boîte-là, par rapport au repas que vous auriez cuisiné. Dans un scénario de descente énergétique, il n'y a plus de boîte Good Food. Vous écoutez « La descente énergétique ou la révolution qui vient », une entrevue réalisée par Diane Bérard, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. La descente énergétique mise, entre autres, sur la technologie passive et sur l'activité humaine. Concrètement, ça ressemble à quoi? La technologie passive, ce sont les escaliers, par exemple. Dans les universités européennes, les bâtiments de moins de 5 étages ne comportent que des monte-charges. Au Québec, on installe des ascenseurs dans les édifices de 2 étages. La peinture dont on enduit les murs pour réduire les effets du soleil est aussi une technologie passive. Et par activité humaine, on entend notamment les loisirs productifs, le jardinage, les cuisines collectives, la réparation d'objets, tout ce qu'on fait hors du circuit marchand. La descente énergétique est-elle compatible avec la croissance? Non. La descente énergétique a été imaginée parce que la croissance n'est plus possible sans la poursuite de l'exploitation des hydrocarbures, sans que soit privilégiée l'économie au détriment de la biodiversité et sans le déplacement du fardeau de notre ébriété énergétique vers les pays du Sud, comme la Bolivie, et ses réserves de lithium que l'industrie automobile convoite pour la fabrication de batteries. Puisque la croissance économique ne peut être sobre et qu'électrifier une économie boulimique entraîne trop d'externalités, il faut explorer la post-croissance. La fin de la croissance marque-t-elle la fin du développement? Non. Il n'est pas question de grande révolution socialiste. Je crois que l'économie devrait suivre un développement endogène, tourné vers l'intérieur, vers les besoins des Québécois. Un développement qui mise sur la réduction de notre empreinte écologique et une meilleure intégration de l'économie. Dans une économie post-croissance, les travailleurs de Bombardier fabriqueraient des turbines pour les éoliennes et non des jets privés. Et ceux de Beauharnois produiraient des batteries pour alimenter les autobus électriques Lyon à Saint-Jérôme plutôt que des batteries pour les Hummer américains. Et la filière de la biométhanisation, production d'énergie à partir de matières résiduelles, dont les déjections animales, serait le fait d'un essaim de coopératives d'agriculteurs d'ici, qui s'approvisionneraient dans des circuits courts et non le mandat d'une multinationale dont le modèle repose sur des biodigesteurs géants qui doivent faire le plein des kilomètres à la ronde. Les villes de Laval et de Longueuil seraient des embryons de post-croissance à surveiller? Pourquoi? Laval et Longueuil sont confrontés aux limites de la croissance. Pas la limite écologique, mais plutôt la limite sociale. Acheter est devenu trop cher, construire aussi. Les administrations municipales en sont arrivées à se dire « on va quand même pas construire des HLM pour la classe moyenne ». Un couple avec 2 enfants dont chaque conjoint gagne 50 000 $, on les loge où? C'est ça la limite sociale. C'est ce qui pousse Laval et Longueuil à faire preuve de créativité et à explorer des solutions post-croissance. Laval et Longueuil sont inspirés par le cas de Vienne, la ville la plus abordable d'Europe, où plus des 3/4 du parc immobilier se trouvent hors marché. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus disponibles pour la spéculation. Sans aller aussi loin que Vienne, Laval et Longueuil veulent sortir certains immeubles du marché, entre autres par l'entremise de fiducies foncières, pour que la classe moyenne puisse à nouveau se loger. Elles étudient aussi la densification intelligente, permettre des unités d'habitation plus petites dans les cours et favoriser des milieux de vie mixtes, plutôt que les quartiers de résidence unifamiliale, et miser sur les immeubles de 6 ou 7 étages plutôt que sur les grandes tours. Les recherches en économie écologique montrent que le meilleur rapport densification versus faible empreinte écologique, c'est un immeuble de 6 ou 7 étages. Réduire la taille de nos maisons et la fréquence de nos voyages, adopter des loisirs productifs, réapprendre une forme d'autosuffisance, partager au lieu de posséder. Les adaptations requises pour parvenir à consommer moins d'énergie sont énormes. Cette révolution-là ne s'annonce pas tranquille. En effet, la Révolution tranquille était une coalition de croissance mise en œuvre par l'État qui ralliait les syndicats et le monde des affaires. Cette coalition progressiste était rassembleuse, car elle allait dans le sens du progrès et de l'accélération. La Révolution tranquille vendait l'idée qu'on allait améliorer la qualité de vie de la population grâce au développement. La coalition qui réclame aujourd'hui une descente énergétique n'est pas progressiste au sens classique. Sa définition du progrès n'est pas capitaliste. Elle vise le moins, pas le plus. Un autre défi réside dans le fait que les artisans de la Révolution tranquille avaient le temps de leur côté. Chaque année amenait davantage de croissance, donc davantage d'adhésion sociale. Dans le dossier énergie, le temps est notre ennemi. On a 8 ans pour plafonner nos émissions de GES. Sur qui pouvons-nous compter dans la descente énergétique et la post-croissance? Les femmes du mouvement syndical, les politiciens locaux nouvellement au pouvoir, les travailleurs directement confrontés aux limites de ce que la nature peut donner, comme les travailleurs forestiers et les travailleurs des mines, qui voient bien que le modèle actuel ne fonctionne plus. Quand on leur parle, on sent un potentiel de prise de conscience, et tous les travailleurs précaires de l'économie du juste à temps, les livreurs d'Uber Eats, Amazon et Good Food sont à bout. Et le reste de la population, où se situe-t-il? Je dirais qu'à peu près tout le monde a une bulle éco-anxieuse au fond de sa tête, mais notre attitude individuelle et collective relève de la schizophrénie. On sait que ça ne peut plus continuer, mais on n'est pas prêt à ce que ça change. C'est correct. En 1952, le peuple n'était pas prêt à sortir de l'Église. On n'était pas là. Il a fallu beaucoup de discussions et de débats de société pour y arriver. Et, surtout, il a fallu que le système catholique ne remplisse plus ses engagements. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation similaire. Notre modèle énergétique peine à combler nos demandes infinies. On ne pourra pas remplacer des joules sales par des joules propres et alimenter une croissance infinie. L'humanité est coincée entre l'urgence climatique et la lenteur propre aux révolutions culturelles. Comment dénouer cette impasse? On ne s'en sortira pas sans un conflit social. Pour tout ce qu'elle représente, la possible construction d'un barrage sur la rivière Macpie, sur la côte nord, pourrait constituer un tournant. Les élus s'y opposent, les citoyens aussi, parce que c'est leur territoire de chasse et les Premières Nations parce que c'est leur milieu de vie. On est loin d'une coalition d'environnementalistes. Si le ministre Fitzgibbon annonce le harnachement de la Macpie, ça va devenir très polarisé et marquer le début d'une vraie conversation. On va arrêter de parler dans du mou pour poser la vraie question. Voulons-nous aller dans ce sens-là, oui ou non? Ce dialogue social sur l'avenir énergétique, où peut-il mener? Qui sait? Un jour, les Québécois en ont eu assez de prier. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens vont se détourner des Walmart et Distrante, comme ils se sont détournés des églises. Diane Bérard est journaliste de Solutions indépendantes. Son reportage « Recycler le territoire » est paru dans Nouveau projet numéro 19. Éric Pinault est sociologue spécialisé en économie, professeur président du comité de recherche de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et chercheur associé à la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM. Son essai « L'équation analphabète » est paru dans Nouveau projet numéro 18. C'était « La descente énergétique ou la révolution qui vient », une entrevue réalisée par Diane Bérard, parue le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet.
S'habiller comme Paul Piché en 1977. Un texte de Jonathan Livernois, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Nouveau projet. Comment expliquer la popularité des vestes Makina, ses chemises en flanelle aux carreaux noirs et rouges? Dans cet extrait de « La route du pays brûlé », notre document 09, l'essayiste se demande pourquoi les rats de ville d'aujourd'hui se vêtissent comme les rats des champs d'autrefois. Dans le quotidien Le Soleil de Québec, on annonçait récemment le retour en force du motif « Buffalo », les carreaux noirs et rouges. Cela n'a rien pour me surprendre. À l'université où j'enseigne, on vend des sacs d'école et des couvertures à carreaux. Dans un grand magasin, on vend des mouchoirs de poche à carreaux, des cravates à carreaux, des chandails à carreaux, des bas à carreaux, des coussins à carreaux, des sous-vêtements à carreaux. C'est l'heure du « lumber sexual ». Bottes lourdes, barbe longue, bas de laine, froc de chasse. Ce serait, à l'image du chanteur Paul Piché en 1977, si ce n'était pas ironique et au deuxième, voire au troisième degré. Bizarrement, comme si j'avais prévu le coup, je porte depuis 4 ans la veste Makina de mon grand-père Jimmy. Mon originalité est compromise. À l'époque, quand j'ai décidé de porter cette veste sur la promenade Masson à Montréal, il s'agissait pour moi de reproduire les gestes de mon grand-père, lesquels n'avaient rien d'ironique et ne se situaient nulle part ailleurs qu'au premier degré. Pas de charge symbolique, par exemple, que les littéraires de mon acabit pourraient y accorder. Après tout, la veste Makina est un des symboles, dans la littérature québécoise, de la liberté du coureur des bois, de l'homme de chantier, du chasseur, insoumis et affranchi. Ce n'est pas un hasard si le survenant, dans le roman de Germaine Guèvremont, en porte une. Il y a aussi ces vers d'Alfred Desrochers. Le sac au dos, vêtu d'un rouge Makina, le jarret musculeux étranglé dans la botte, les shantymen partant s'offrent une ribote avant d'aller passer l'hiver à Malvina. D'où vient cette veste? Ma collègue de l'Université Laval, l'historienne Jocelyne Mathieu, m'a expliqué que le Makina avait beaucoup voyagé entre les États-Unis et le Canada, passant des bûcherons aux chasseurs, et qu'il avait peut-être été inspiré par les Écossais et les Irlandais à cause du tartan. Le rouge et le noir sont des couleurs idéales pour les activités extérieures, comme la chasse. Il est toujours bon de ne pas se faire tirer déçu. Aussi, les carreaux sont faciles à tisser par un croisement de base. Pourquoi diable porter une veste de chasseur à Montréal ou à Québec? On n'y chasse plus beaucoup. Prenons acte de ces quelques faits. Je ne suis pas mon grand-père. Je ne suis pas plus un chasseur, comme le sont mes cousins, par exemple. Ceux-ci ont d'ailleurs repris les fusils de mon grand-père. Mais ils n'ont pas pris sa veste. Toute la symbolique que j'accorde à ce vêtement, toute la liberté que j'y vois, sur quoi repose-t-elle au juste? Après tout, la veste Makina est un des symboles, dans la littérature québécoise, de la liberté du coureur des bois, de l'homme de chantier, du chasseur, insoumis et affranchi. Richard Hoggart, l'une des grandes figures des études culturelles en Angleterre, écrivait dans son classique « The Uses of Literacy » 1957, « Il ne fait aucun doute que la plupart de ces mythes littéraires procèdent d'un vif sentiment d'admiration pour les qualités potentielles des classes populaires en même temps que d'une pitié sincère pour leurs conditions. Mon amour serait-il un amour du pauvre? Une façon, par trop facile, d'accepter l'héritage complexe de mes ancêtres cultivateurs? Faites d'objets qui ne veulent rien dire, sinon, dans mon imaginaire d'intellectuel, Cette image de l'héritage permet peut-être d'éviter de réfléchir à ce qu'il représente réellement. Par exemple, que c'est avec un fusil qu'on est un chasseur, et non avec une veste, qui donne seulement l'impression de ressembler à un chasseur. Il en va de même de notre patriotisme. Un seul exemple, pas si lointain. En mars 2007, ça a été la panique au Bas-Canada. Des musulmans venus festoyer dans une cabane à sucre de Mont-Saint-Grégoire ont fait retirer le lard de la soupe aux pois et ont prié sur un plancher de danse. Nos plus ardents symboles laurentiens étaient ainsi mis en péril. Les médias se sont emparés de l'affaire, relançant à n'en plus finir la soi-disant crise des accommodements raisonnables. Évidemment, l'histoire avait été complètement déformée. Il n'y avait eu aucune demande du groupe de musulmans. Mais, devant une telle panique enflammée, pour rien dans le beurre, face à la menace contre la patrie, incarnée ici par la cabane à sucre, Gérard Bouchard et Charles Taylor ont cru bon de préciser, dans leur rapport de 2008, qu'il y avait peut-être une tâche plus importante là, cachée derrière la peur de voir disparaître un symbole faussement en péril. Notre société doit lutter contre le sous-emploi, la pauvreté, les inégalités, les conditions de vie inadmissibles, les diverses formes de discrimination. C'est un beau programme. Toujours à réaliser, me semble-t-il. Le patriotisme peut être un rideau particulièrement opaque. Jonathan Livernois est essayiste et professeur d'histoire littéraire et intellectuelle au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. On lui doit notamment « Remettre à demain, essai sur la permanence tranquille au Québec, 2014, Boréal. Ses écrits sont aussi parus dans Le Devoir, La Presse et la revue Liberté. C'était S'habiller comme Paul Piché en 1977, un texte de Jonathan Livernois, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet.